Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Et en ce début de semaine, lundi 9 mars, le journal de la mi-journée avec Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. La ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, a posé le pied pour la première fois en Polynésie ce matin. C'est donc parti pour 3 jours d'une visite marathon. Vous entendrez ses premières interventions dans ce journal. La seconde édition des Tahitian Voice débute le 20 mars prochain avec les premiers castings. C'est le grand retour du concours de chant qui avait cartonné l'an dernier. Nous passerons en revue ce midi tout le détail de cette nouvelle édition. Et pour terminer, nous serons en direct dans ce journal de Bora Bora avec le Tavana Gaston Tongsang. Il nous parlera, vous l'entendrez, d'un projet pilote assez inédit pour l'agriculture locale. A tout de suite.
Et on commence donc avec la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin, qui est arrivé ce matin pour sa visite de 3 jours en Polynésie.
Le haut commissaire, le président du pays, ses ministres, mais aussi les députés et sénateurs, le président de l'Assemblée et quelques élus, tous étaient présents ce matin à l'aéroport de Tahiti-Faa pour accueillir la ministre des Outre-mer, Georges Paul-Angevin. C'est d'ailleurs la première visite en Polynésie pour la ministre qui a succédé à Victorin Lurel en avril 2014. Dès son arrivée, Georges Paul-Angevin a indiqué que ce voyage devait lui permettre de repartir avec, je cite, « des idées plus claires sur les dossiers en cours ». Elle était interrogée ce matin à la descente de l'avion par Vaïté Ouéry Pambrin. Écoutez.
Nous travaillons sur beaucoup de dossiers qui concernent la Polynésie, mais rien ne vaut le fait de venir sur place pour pouvoir constater les problèmes. Et par conséquent, je suis persuadée que non seulement nous allons pouvoir avancer sur un certain nombre de questions, signer le contrat de projet, relancer un certain nombre de choses, notamment en matière de logement, mais aussi nous repartirons avec des idées plus claires sur ce que nous devons faire pour l'avenir, pour tirer un peu la Polynésie de ses difficultés dans lesquelles elle est plongée depuis plusieurs années.
La ministre affirme que la Polynésie reste une zone économique exclusive importante pour l'Europe et qu'elle ne doit pas être oubliée malgré la distance qui nous sépare de la métropole.
C'est vrai que c'est un territoire qui est immense. Il ne faut pas oublier que c'est quasiment à la superficie de l'Europe et que donc c'est une zone économique exclusive qui est importante pour l'Europe. Et je crois que cette manière de mettre l'accent sur les atouts de la Polynésie et de ce qu'elle apporte à l'ensemble européen est aussi quelque chose qui est utile. C'est un acte pour son rayonnement. Et je crois qu'ici, dans l'océan Pacifique, qu'il y ait des terres qui soient françaises, alors que nous savons qu'il y a de grands voisins autour qui d'abord sont anglo-saxons ou chinois. Par conséquent, il est important aussi que l'Europe et la France à travers l'Europe puissent affirmer une présence dans cette région du monde. Maintenant, c'est un peu loin. Bon, parfois, les populations oublient. Et quand on fait des efforts, notamment budgétaires, pour les territoires lointains, les populations qui sont aujourd'hui partout dans la difficulté ont tendance à dire mais au fond, pourquoi mettre en valeur des territoires aussi lointains? Mais il faut aussi le rappeler que d'abord, il y a toute une histoire qui rassemble les Polynésiens et la France, notamment cette année où nous fêtons la commémoration des guerres de 14 et de 39-45. Aujourd'hui, par ailleurs, la Polynésie contribue à la grandeur de notre pays. Donc il est important que nous ayons des liens qui soient aussi chaleureux et aussi équitables que possible avec ce territoire.
Dès ce matin, la ministre a pu prendre connaissance d'un dossier particulièrement sensible et actuel, celui de la dette du nucléaire. Une rencontre vient d'ailleurs de se dérouler entre la ministre Patrick Galnon et Angelo Frebo, ces derniers qui sont respectivement membres du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que président du Conseil économique, social et culturel, le CESC. Mais tous les deux sont surtout des syndicalistes de la CSTPFO. Selon nos sources, le sujet de la dette du nucléaire devait être abordé durant cette réunion. Interrogé ce matin sur le sujet, la ministre a fait preuve d'une certaine ouverture. Écoutez.
Je sais que la dette nucléaire est un sujet dont on parle depuis longtemps concernant la Polynésie. Il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment des montants compensatoires. Il y a eu aussi une loi pour indemniser les victimes des essais nucléaires. Mais manifestement, tout ça ne marche pas encore aussi bien que ce qui est souhaité. Donc là encore, c'est un dossier que nous allons ouvrir pour pouvoir essayer d'avancer avec tout le monde dans un sentiment de justice et d'équité.
Ce matin, le contrat de projet a été signé entre le président Édouard Fritch et la ministre Georges Paul-Angevin, qui s'est ensuite rendu à l'Assemblée pour rencontrer le président de l'institution Marcel Touyani. Demain, elle s'envolera pour Rurutu et Toubouei. La visite se poursuivra ensuite à Manihi puis Mopiti, avant un retour à Paris mercredi soir à minuit.
On parlait des syndicats et justement, la grève a été évitée ce week-end à la CPS.
Un accord a finalement été trouvé hier à 13h30 entre la direction de la Caisse de prévoyance sociale et les syndicats. La semaine dernière, un préavis avait été lancé par la CSTPFO, la CSIP, OTEI, OETO ERIMA et le syndicat des cadres de la CPS. Hier, les partenaires sociaux ont estimé avoir obtenu des garanties assez solides sur leurs deux principales revendications. La première concernait la réorganisation de la direction et plus directement la situation très critiquée du directeur Régis Chang. Sur ce sujet, les organisations syndicales et la direction ont convenu d'une réorganisation de cette direction lors des prochains conseils d'administration. Il est notamment prévu la création d'un poste de directeur général adjoint. L'autre grande revendication concernait la convention collective des salariés de la CPS. Sa renégociation était l'une des conditions de l'accord passé entre l'État et le pays sur le retour au financement du régime de solidarité. À ce sujet, je vous propose d'écouter le futur ministre de la Santé, Patrick Howell. Il était interrogé ce matin au micro de Vaïté Olari Pambrin.
Nous allons donc entrer dans une phase normalisée où on pourra tenter d'améliorer donc l'organisation de la CPS.
Alors concernant le premier point, notamment les problèmes avec la direction, qu'est-ce qu'il en est ?
Ah ben je peux pas vous répondre là-dessus, ça c'est du ressort du conseil d'administration. Bon, mais je pars du principe que c'est un directeur donc d'une institution doit également participer à ce type donc de débat pour qu'on puisse trouver donc des solutions ensemble. Et je pense que au niveau du conseil d'administration, on va déjà faire un point de situation et ensuite on verra pour la feuille de route.
Et quels sont les autres points de revendication où il y a eu un accord ?
Il y a eu par exemple cette convention que nous devons signer avec l'État où en fait nous nous sommes mis d'accord. Il y a eu également l'organisation interne au niveau de ce qui est problème de relations humaines. Des décisions vont être orientées au niveau du conseil d'administration. Mais surtout faire des efforts pour renforcer l'image de la CPS. L'idée, c'est d'améliorer donc notre productivité selon un rapport coût-efficacité qu'il convient donc de déterminer avec les organisations syndicales, mais aussi avec le conseil d'administration.
Et le premier conseil d'administration de la CPS depuis plus de 10 mois est d'ailleurs prévu pour vendredi. Il sera notamment question de l'élection d'un président du CA, une fonction qui revient cette année à un représentant du syndicat de salariés.
Changement total de sujet, on parle musique à présent, c'est parti pour la saison 2 de Tyson Voice.
Et ils sont plus motivés que jamais, Taïva LC, Aldo Raveino, Sabrina Loglin et Aldo Martinez remettent ça. Ils seront de nouveau les jurés de la deuxième saison de Tyson Voice. Le concours vocal est sur le point d'être lancé, relancé même avec les castings qui commencent le 20 mars prochain. La Joyeuse Bande semblait déjà très complice lors du shooting photo organisé dans les studios de radio un mercredi dernier. Et pour cause, nos quatre artistes connaissent bien cette aventure, audition à l'aveugle, battle, tout y sera encore cette année pour Tyson Voice 2. Pourtant, quelques nouveautés attendent les candidats. Le concours se veut cette année encore plus exigeant et veut innover. Plus de live, plus de chansons polynésiennes notamment. Interrogés la semaine dernière par Samia Stambouli, les membres du jury se sont dit heureux et impatients de commencer cette nouvelle saison. Témoignage de Taïva LC et Aldo Raveino.
Très heureux de rééditer cette année une saison 2, là ça va. Avec tout ce qu'on est en train de mettre en place, les moyens, l'envie et puis surtout l'expérience qu'on a eue de la saison 1. Donc on va faire beaucoup mieux et avec beaucoup plus de punch et de surprises.
Justement, quelles sont vos attentes de cette saison 2 ?
Des bons musiciens.
On est parti sur les deux premières soirées de sélection. Voilà, les deux premières soirées de sélection vont se faire en playback musical parce qu'on laisse le choix quand même aux candidats de choisir leurs morceaux. Par contre, la soirée de finale sera en live avec donc des musiciens sur scène et du coup, ben, ce sera comme on a fait l'année dernière, voire pire que ça, c'est les jurys qui vont choisir sur quels morceaux les candidats vont passer. Dans les premières réunions, en fait, c'est qu'on allait de toute façon voir en fonction des talents qu'on va avoir. On va leur demander déjà sur quoi ils sont plus à l'aise. On va leur demander 4-5 chansons sur lesquelles ils aiment évoluer. Et nous, on fera notre choix derrière. On aimerait avoir un peu plus de chansons polynésiennes, parce que c'est quand même Tyson Voice et ça a été un petit peu notre petit regret l'année dernière. Donc on va mettre ça un peu en avant.
L'année dernière, la première édition avait vu le sacre de Karen Maraitefou, la chanteuse de Natura Jam. Cette année, les castings commenceront le 20 mars dans les locaux de Radio 1 à Faréauté. Durant 3 jours de sélection, les 20, 23 et 30 mars, les apprentis chanteurs devront interpréter un morceau a cappella. Au terme de cette sélection, 40 candidats seront choisis pour accéder aux sélections à l'aveugle qui auront lieu à la fin du mois d'avril. Pour vous inscrire au casting, c'est très simple. Il vous suffit dès à présent de contacter Mahata au 87 752 755 ou ou par email sur maheata@radio1.pf. Je vous rappelle que le gagnant du concours aura la chance de remporter un single, un clip, une voiture, deux billets d'avion pour Paris ou encore un séjour dans les îles.
Une pause dans ce journal, il est midi 11 et on revient avec le Tavana de Bora Bora au téléphone. À tout de suite. Retour au journal, Antoine, et on reprend avec un projet assez unique qui vient de voir le jour à Bora Bora pour l'agriculture locale.
Il y a tout juste 2 semaines, le conseil municipal de Bora Bora a approuvé le projet Evolution Farm. Ce projet totalement novateur en Polynésie concerne la création d'un centre agricole de grandeur nature, de formation et de production de produits locaux 100% naturels. Pour évoquer avec nous ce projet pilote, j'ai le plaisir de retrouver le Tavana de Bora Bora et ancien président du pays, Gaston Tongsang. Tavana, Yorana.
Hey, Yorana.
Alors, monsieur Tongsang, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce qu'est ce projet Evolution Farm?
Oui, exactement. Ça a commencé il y a 1 an et demi. À titre expérimental, nous avons mis en place une association et qui doit accompagner la personne de ressources, Monsieur Johnny Ridge, et qui a tout ce savoir-faire et qui a voulu effectivement mettre en application ici à Bora Bora. Donc, nous avons pu former à l'aide de cette méthode 15 jeunes qui peuvent déjà pratiquer cette technique nouvelle où tout est naturel, il n'y a pas un seul produit chimique et ça marche, il y a eu des résultats. Nous avons déjà fourni la cuisine centrale de Bora Bora à partir des légumes plantés au sein de ce centre. Et maintenant, nous passons à la phase supérieure. Nous traitons directement avec une société qui a été créée par Johnny Ridge. Et pour toujours former des jeunes, nous pensons former 36 cette année de jeunes qui sont capables effectivement de pratiquer cette nouvelle technique de plantation 100% naturelle. Et l'objectif, c'est d'alimenter les hôtels et restaurants demain à partir de ces plantes.
Alors concrètement, la commune va louer en fait des parcelles de terre à la société, c'est bien ça?
C'est ça, c'est 3 hectares de terrain que nous disposons au-dessus du complexe scolaire que nous avons ici au village de Vectapé. Et cette société donc pourra faire les aménagements, toujours pour faire de la formation, mais pour aussi vendre les produits, pour bien montrer qu'on peut vivre de cette nouvelle technique de plantation naturelle. Et voilà, je pense que c'est un projet d'avenir. Et nous pensons à la santé, à lutter contre toutes ces maladies qui sont la cause de l'évolution de la société d'aujourd'hui par la consommation de beaucoup de produits chimiques.
Alors c'est une initiative pour l'environnement, mais ça représente également une économie pour les cuisines. On l'imagine pour les cuisines des écoles de la commune.
Ah, tout à fait. Tout à fait, nous pouvons même, d'après nos spécialistes, avoir accès à des produits moins coûteux que les produits importés, compte tenu des conditions d'approche, les coûts de transport très élevés, et surtout en matière d'environnement, le fait de ne pas utiliser de produits chimiques, même le chlore qui se trouve dans l'eau potable de Bora Bora, cette eau ne peut pas être utilisée à ce type de plantation. Vous voyez jusqu'à quel point la technique utilisée permet effectivement d'éviter l'utilisation des produits chimiques, soit en pesticides, soit en engrais chimiques.
C'est un projet qui va aussi permettre de créer des emplois. Combien est-ce que pour l'instant vous avez justement créé d'emplois avec ce projet?
Donc, sur les 15 jeunes qui ont été formés, 5 ou 6 ont déjà été recrutés dans les hôtels, parce que les hôtels veulent aussi lancer leur potager, leur culture 100% naturelle, et d'autres vivent de cette activité en vendant eux-mêmes leurs produits à la population. Donc, nous pensons former 36 par an, et nous pensons sur 5-6 ans, pouvoir former 200-300 jeunes parce que bon, on peut pas tous les recruter à la mairie et l'administration ne recrute plus d'ailleurs, Et le seul moyen, si on veut répondre au marché qui est immense, le marché de Borobora, les hôtels et restaurants, il faudrait en faire plusieurs agricultures de petites exploitations, mais qui au total produira autant qu'une grande exploitation qu'on peut trouver à Tahiti ou ailleurs.
C'est une sorte de partenariat public-privé. Est-ce que vous savez si cette solution, qui est un projet pilote à Bora Bora, pourrait être généralisée chez certains des maires, de vos collègues maires des autres îles ?
Ah bon, j'y crois bien. Moi, je pense qu'effectivement, avec l'expérience que nous avons depuis le lancement de ce projet, on connaît bien le coût, on maîtrise bien le coût. Et la technique est parfaitement rodée et on connaît les résultats. Enfin, on retrouve le vrai goût des légumes, des produits qui sont plantés de cette manière et bien sûr forcément bénéfique pour la santé.
Et voilà, et bon appétit avant à cette heure-là, cette circonstance. Tavana, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.
Et on termine maintenant ce journal avec notre page sport.
Premier sur le sport. Avec sporttahiti.com.
Au menu de notre journal des sports, les événements du week-end avec du basket et la saison de Va'a qui se poursuit. Pour les nénas, de notre partenaire tahitisport.com, évoquera notamment la STC Mahina Race.
On démarre notre tour d'horizon de l'actualité sportive du Fénois par du basketball. Pour la dernière journée du championnat fédéral, Aureil bat difficilement SDJ sur le score de 86 à 78. Privé de deux joueurs, Aureil a rendu une compile moyenne en se faisant chahuter par une équipe de SDJ revancharde et bien dans ses baskets. Excelsior, de son côté, n'a pas tremblé devant Feipi, qui est resté sur de bonnes prestations, mais qui s'est montré bien trop fébrile pour prétendre l'emporter. Excelsior gagne sur le score de 78 à 66. Petite surprise du côté de Paea avec la victoire de Manoura sur Central, 68 à 61. Les demi-finales des playoffs se joueront donc mercredi et opposeront SDJ à Aureil et Feipi à Excelsior. On poursuit avec du Va'a en V1 et la STC Mahina Race qui a vu sur un parcours de 23 km Mahina Papeete Mahina la victoire de Johan Kronstedt en 1h58 minutes et 15 secondes. Comme la semaine dernière, Manoutea Millon prend une belle deuxième place à seulement 3 secondes de Johan. Terama Estol complète le podium. Chez les femmes, c'est Marguerite Temayana qui l'emporte devant Veimiti Maoni et Rose Minieux.
Et puis, pour être complet sur l'actualité sportive du week-end, on va terminer par du football avec la Ligue 1 Vini. C'était la 8e journée ce week-end. La grosse affiche, c'était Pirée contre Central, puisque le club de Papeete avait réussi la semaine dernière l'exploit de faire chuter le leader Tefana. Son dauphin Pirée devait impérativement remporter la rencontre pour espérer conserver le titre. C'est chose faite. Score final 2-0 pour les Oranges. Ils ont dominé l'ensemble du match et ont su se mettre à l'abri grâce au buteur Reimana Lifunkwe, qui a signé un doublé au cours de cette soirée. Le coach de Pirée, Samuel Garcia, reconnaît que ses joueurs avaient la pression lors de ce match. On l'écoute.
On savait que Central était dans une bonne dynamique, donc il fallait qu'on stoppe ça. Je pense qu'on a été solide, même si on manque un peu de constance dans le jeu. Mais on va dire que l'efficacité était là ce soir, avec un état d'esprit irréprochable. Et donc à l'arrivée, le résultat est mérité, quoi. On a encore besoin de travailler, on n'est pas encore... à 100%, on sent quand même que Tefana est au-dessus, donc on va prendre les matchs les uns après les autres et puis on va essayer de se régler pour qu'on soit prêt le 21 mars.
Pirée reste en effet toujours dans la roue de Tefana qui l'a emporté 4-0 ce week-end face à Aroniou. La semaine prochaine, les joueurs de face se déplaceront sur le terrain difficile de Manoura, tandis que Pirée affrontera Dragon au Stade Pater. A noter que le troisième match de cette journée s'est soldé par une victoire de Manoura 3-1 face à Dragon.